l'orthodoxie. Bertrand Vergely.
Chers amis, dans cette nouvelle mouture que je vous propose de notre approche de la tradition orthodoxe, la dernière fois, je vous ai parlé au sens général du religieux, afin de faire comprendre que ce que l'on appelle le christianisme n'est pas une religion comme une autre, tout simplement parce que ce n'est pas une religion, c'est la réalité même, c'est la vérité même, sans être un matérialisme ni un paganisme, c'est exactement ce qui se passe. S'il y a le premier sens du religieux sous la forme du sacré, ce à quoi on ne touche pas, parce qu'on a le sens de la transcendance, c'est-à-dire du plus haut que nous, devant lequel nous éprouvons une joie infinie à nous abaisser en nous recueillant et en nous faisant petits pour que lui grandisse, comme le dit Jean, il faut que je diminue pour que lui grandisse. Il importe de distinguer le religieux authentique de ses déviations. Et là, on reprend, le christianisme reprend une tradition qui se trouve dans le monde hébraïque et qui est extrêmement importante, c'est-à-dire la distinction qu'il peut y avoir et qu'il y a entre d'une part Dieu et les idoles de Dieu. Les idoles de Dieu, c'est ce qui prend un élément terrestre, humain, pour lui conférer une dimension divine. Cela n'a rien à voir avec Dieu, où Dieu n'est nullement un élément matériel ou humain qui revêt un caractère divin. Mais au contraire, la rupture totale avec la tentation de prendre un élément humain ou un élément matériel pour un élément divin. Il faut donc distinguer Dieu de ses idoles. Et en particulier, il importe de prendre ses distances à l'égard de la société, du peuple, de la nation, de la culture, ce qui est une grande tentation humaine. J'ai constaté qu'il existe entre nous et la société et nous, un effet de miroir. La société est le miroir du moi, et le moi est le miroir de la société. Et à travers le moi comme miroir de la société, et la société comme miroir du moi, le moi et la société prennent un étrange plaisir à se regarder, à se contempler. Cet étrange plaisir peut déboucher sur l'idole, l'idole consistant à prendre une ethnie, une culture, une nation, un peuple pour Dieu. La société n'est pas Dieu, mais la grande tentation est de prendre la société pour Dieu. Au XIXe siècle, c'est bien ce qui s'est passé à travers les mouvements révolutionnaires qui entendaient installer le paradis sur terre. Émile Durkheim pensait avoir trouvé l'énigme de Dieu en expliquant que Dieu, c'est la société. Nous avons tous entendu cet adage « Vox populi, vox Dei », la voix du peuple et la voix de Dieu. Il est vrai que la société porte en elle une vertu céleste. Il est vrai que le peuple porte en lui une vertu céleste. Mais la société n'est pas Dieu et le peuple n'est pas Dieu non plus. Il est merveilleux d'être en société et c'est là où on aperçoit un caractère divin de la société, quand les hommes peuvent s'entendre et faire société entre eux, il y a là un avant-goût du paradis sur terre. Même chose dans le peuple, il y a une beauté du peuple qui travaille et qui, en travaillant, porte les valeurs de la vie incarnées à travers l'histoire. Mais attention, ce n'est pas parce que nous éprouvons du plaisir à vivre ensemble, réconciliés dans une atmosphère sociale généreuse et avenante, que pour autant nous touchons à la véritable vie divine. La véritable société n'est pas une société humaine, c'est une société angélique, céleste, divino-humaine. De même, le peuple manifeste l'effort de la vie pour s'incarner à travers tout ce que peut avoir, là encore, de généreux et d'avenant. Mais attention à ne pas prendre le peuple pour Dieu. Au XXe siècle, ce qui a fait errer ce XXe siècle, c'est le fait de prendre la nation ou bien encore le peuple pour l'absolu sur la terre, en faisant de la nation le Dieu qui allait libérer de l'humanité, ou bien du peuple et des parties du peuple ceux qui allaient libérer l'humanité. C'est Dieu qui libère l'humanité, c'est Dieu qui ressuscite. Ce n'est pas l'homme qui se sauve lui-même par ses propres forces. Quand il le fait, ce n'est pas la force qui l'inspire, mais c'est l'orgueil, lequel orgueil donne beaucoup d'énergie au départ et ensuite beaucoup de déconvenues par la suite. La vérité consiste à dire que Dieu est Dieu parce qu'il est au-delà de la société. Il est au-delà du peuple. Vous avez aimé l'humanité, vous avez aimé la société, vous avez aimé le peuple dans ce qu'ils peuvent avoir de plus généreux. Eh bien, ai-je envie de dire, vous adorerez la vie divine. Vous n'imaginez pas la couleur, la lumière, le rayonnement que peut prendre la vie quand la société n'est pas simplement une société humaine, mais une société divine. Quand le peuple n'est pas simplement un peuple terrestre, mais un peuple céleste. J'aime cette vision des choses où, comme le disait Olivier Clément, le Christ transfigure tout. Nous avons aimé les choses de ce monde, nous avons trouvé parfois des éléments de salut pour la vie humaine et le monde à travers des expériences humaines et terrestres que nous avons eues. Nous n'imaginons pas ce que pourra donner la société divino-humaine accomplie, le peuple divino-humain accompli. L'expérience du religieux consiste non pas à revenir en arrière vers la nation, le peuple et la culture dont on est issu, mais à aller vers une société, un peuple, une nation, une culture dont nous n'avons pas imagination.
Într-un mic sălaș, lângă cel oraș,
C'était les moniales du monastère de Stavropoléos, situé dans le centre de Bucarest, en Roumanie. Monastère remarquable, dont j'ai déjà dit combien il est important dans le monde orthodoxe en vertu de son rayonnement spirituel, liturgique, mais aussi musicologique. Chers amis, depuis quelques semaines, nous avons le plaisir de recevoir le père Givko qui s'est présenté avec tout son parcours, naissance à la foi et à l'Église orthodoxe dans l'ex-Yougoslavie. Ensuite, il nous a parlé de son cours de droit canon qu'il donne à l'Institut Saint-Serge et puis son cours d'histoire des églises locales. Mais cher père Givko, vous n'avez pas qu'un seul talent, vous en avez plusieurs puisque vous êtes engagé dans les médias avec orthodoxie.com dont vous allez nous parler et puis également une émission que vous produisez sur Antenne 2 à la télévision. Et donc vous avez cet engagement à orthodoxie.com. Est-ce que vous pourriez définir ce qu'est orthodoxie.com et en quoi cela consiste ?
Merci Bertrand de me donner cette possibilité de parler de notre site orthodoxie.com. Pourquoi notre site ? Parce que ce site, vous voyez, il a déjà 20 ans. Donc, il a été fondé au mois de janvier 2005 par Christophe Levallois et moi-même. Et pourquoi nous l'avons créé ? En fait, avant cela, il faut expliquer. Dans les deuxième moitié des années 90, j'ai travaillé sur le portail d'un fournisseur d'accès, que peut-être certains auditeurs se souviennent, Club Internet. J'étais web chroniqueur. Et donc, j'ai participé un temps réel à la naissance d'Internet grand public. Et je me suis rendu compte que nous, les chrétiens et les orthodoxes aussi, nous devions être présents à ce nouvel espace, donc le champ de prédication, et qu'il ne fallait pas laisser donc libre donc cette
ne pas manquer l'occasion.
Exactement.
Une opportunité de
justement
faire, il
et puis oui. Travaillons sur le portail, je commence un petit peu à comprendre comment ça fonctionne. Et au départ, j'ai lancé un groupe de discussion Yahoo. Et assez vite, Christophe Levallois s'est rejoint pour modérer ce groupe. Et on a beaucoup de succès, enfin, parce qu'on traduisait de différentes langues des informations venant du monde orthodoxe. Ça a marché bien, il y avait beaucoup d'intérêt. Finalement, nous avons décidé de créer un véritable site, orthodoxie.com, et qui, depuis 20 ans, donc déjà existe. Nous avons plus que 27 000 articles, 400 vidéos en ligne. Nous avons pu interviewer le patriarche d'Antioche, le patriarche de Géorgie, le patriarche de Russie. Il n'était pas encore patriarche de Russie, il était métropolite, donc actuel patriarche de Russie, d'autres évêques. Nous avons, grâce à cette orthodoxie.com, organiser aussi des conférences, des expositions. Et en fait, si ça vous intéresse, je peux vous dire comment nous avons orienté ce travail dans les médias. Et c'est grâce à l'Institut Saint-Serge, parce que l'Institut Saint-Serge, j'ai suivi le cours de Père Nicolas Colomzine, qui nous a parlé de la prédication apostolique. Comment c'est passé ? Il disait, en fait, que les apôtres, quand ils venaient quelque part, d'abord, ils informer, il annonçait la bonne nouvelle. Donc c'est kérigma. Kérigma, c'est crier. Oyez, oyez, le Christ est ressuscité. Mm-hmm. Donc c'est l'aspect d'information, donc l'aspect informationnel. Grâce à cette annonce, donc et d'abord, le message chrétien, il y a à côté cet aspect d'information. Grâce à cette annonce, il y a des gens qui commencent à s'intéresser. Il vient vous dire, oui, tu nous as dit que le Christ est ressuscité, mais qui était lui ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Et là, vous commencez à transmettre, enseigner. C'est l'aspect didascalie. Et une fois, quand les gens ils ont accepté cette enseigne, il a envie de devenir membre de l'Église, de la communauté, et c'est donc troisième aspect, Église. Et à cause de ça,
orthodoxie, kérigme, didascalie,
et ecclésia.
Et ecclésia. Et vous reprenez
exactement
sur un mode nouveau, le mode aujourd'hui avec Internet.
Tout à fait, à cause de ça.
Un mode très ancien que vous avez réactualisé.
Sur notre site orthodoxie.com, il y a des informations, kérigme, tout ce qui se passe dans le monde orthodoxe, mais nous avons une politique éditoriale qui ne sont pas une, comment dire, nous essayons de ne pas être site d'opinion, de commenter, donner un avis, mais nous laissons la place de toutes les opinions, toutes les sensibilités qui existent dans l'orthodoxie, qui sont multiples. Donc ça, c'est l'aspect donc d'information kérigme. Nous donnons, nous proposons aussi des conférences, nous enregistrons soit podcast audio, podcast vidéo, par exemple votre, donc mais aussi nous organisons donc des rencontres concrètes, donc pas seulement rester numériques, donc nous avons fait des expositions et on a fait 3 salons de livres orthodoxes. Voilà, donc, et nous allons continuer, bien évidemment, à un moment donné, comme ça demande beaucoup de travail, parce qu'en fait, nous traduisons de 7 langues des informations. Et nous sommes 2 personnes de DMI. Et nous n'avons pas d'aide.
Mais quelle langue ?
Nous n'avons pas d'aide ni de l'Église, nous ne sommes pas un site institutionnel, bien que certaines personnes, quand ils voient, disent « Ah, vous devez être une grande rédaction paillée par l'Église », ben, je réponds toujours non, malheureusement.
Ah, vous êtes que 2.
On a une sorte d'indépendance, mais qui est appréciée par les orthodoxes, mais aussi par nos évêques. Mais cette indépendance nous pousse à proposer, des pays à un moment, aussi la formule d'abonnement. Donc, toutes les informations ne sont pas libres d'accès, mais c'est un abonnement d'engagement, donc d'être responsable pour l'Église, parce que pour l'instant, nous sommes le seul site pan-orthodoxe, parce que nous ne sommes pas un site d'une juridiction, d'accord, mais nous représentons, nous essayons de présenter tout ce qui se passe dans toutes les juridictions et d'être le moins possible subjectif et le plus possible objectif. Et nous continuons. Et le fruit de ce travail est que à un moment donné, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France m'a proposé de devenir producteur de l'émission de France 2 Orthodoxie. Donc, je suis producteur.
Mensuel.
Une fois par mois, donc, Orthodoxie de 30 minutes. Depuis 2019, je produis ces émissions. J'en suis très content. Mais aussi, fort de cette expérience, donc, nous avons conçu un cours à l'Institut Saint-Serge,
oui.
Orthodoxie et médias, où il n'y a pas que moi et Christophe, il y a d'autres spécialistes et professionnels des médias, où nous essayons de réfléchir sur les bases d'une communication orthodoxe, comment comprendre, concevoir et comment la faire, okay, à la fois de cours théoriques, mais cours pratiques. Donc, pour ça, je vous invite à regarder le site de notre institut, saint-serge.net.
D'accord. Et alors, la télévision, comment est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est pas tout à fait la même chose, j'ai l'impression ?
Non, ce n'est pas la même chose. Vous voyez, maintenant, j'ai remarqué, vous avez sans doute remarqué, avec l'avènement d'Internet, les gens ont commencé à lire de moins en moins les livres. Mais maintenant, je vois que les gens lisent de moins en moins le texte sur Internet. Ils cherchent l'image animée. Donc, et justement, cette émission me donne la possibilité de proposer des émissions de monde orthodoxe, des questions orthodoxes, présenter la pensée, la pratique de l'orthodoxie. Et ces émissions sont financées par la République. Parce qu'il y a une loi de 30 septembre 86 relatif à la liberté de communication qu'on appelle loi Léotard, qui dit que France Télévisions programme le dimanche matin des émissions à caractère religieux consacrées aux principaux cultes pratiques en France. Il y a 7. Oui. Et ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants de ces cultes et se présente sous la forme de retransmission de cérémonies cultuelles et de commentaires religieux. Donc moi, je suis chargé par l'Assemblée des évêques orthodoxes de France de produire ces émissions. Et j'ai un petit budget, malheureusement.
Oui, oui.
Mais c'est un budget permanent. On est très content de pouvoir... Et j'ai, pour l'instant, deux bons réalisateurs qui se donnent beaucoup d'eux-mêmes. Ils travaillent plus qu'ils sont payés. Mmh. Oui, voilà. Mais fort de cette expérience, ces émissions vidéo, nous avons décidé et nous avons acquis donc, un petit studio pour faire des émissions vidéo, télévisées, web télévision,
oui.
orthodoxie.tv. Donc, et puis, si vous permettez, je fais un appel aux dons.
Oui.
Parce que les gens ne se rendaient pas compte que cela non seulement que demande beaucoup de travail, mais il y a quand même un côté financier.
Un engagement, oui.
Voilà, engagement. Oui. Que pour l'instant, comme je vous ai dit, nous sommes deux, trois personnes donc, qui sont bénévoles
oui.
et qui ont fait ça, mais on a besoin de l'aide.
Bon. Écoutez, j'espère que nos auditeurs auront entendu, et je suis sûr qu'ils auront entendu cet appel, auquel on a vraiment envie de souscrire, parce que je m'aperçois le nombre de personnes qui sont très heureuses d'orthodoxie.com, de tout ce que ça apporte, de la richesse, et du bien que ça peut faire. Cher Père Givko, un immense merci pour cet éclairage.
Merci à vous, Bertrand.
Et pour terminer cette émission, à nouveau, la maîtrise admirable, démoniale du monastère de Stavropoléos à Bucarest, dans Roumanie, avec le rayonnement, la puissance, la beauté de ce chant liturgique accompli.
Thank you. Et maintenant, retrouvons Bruno Fuma pour la matinale du dimanche.